France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, vous êtes bien sur France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, une nouvelle bougie s'allume, un peu de lumière supplémentaire dans nos jours parfois chargés et sombres. La lumière de l'Avent n'est jamais spectaculaire, c'est vrai, mais elle est fragile, progressive et elle accompagne nos pas. François-Xavier Maigre nous ouvrira cette émission avec une chronique musicale, peut-être un peu comme une flamme posée dans l'obscurité, nous verrons bien. Puis nous irons à la rencontre de Gaëlle Couvez, coordinatrice du service régional jeunesse de l'Église protestante unie en région parisienne, pour réfléchir d'une certaine façon également à ce que signifie apporter un peu de lumière autour de soi. Bonjour François-Xavier Maigre.
Bonjour.
De retour ce matin pour une autre page faite de musique et de spiritualité. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'excellent livre God Bless Rock'n'Roll aux éditions Première Partie. Dimanche dernier, nous étions avec les Beach Boys et God Only Knows. Aujourd'hui, dans cette émission où nous parlerons jeunesse, François-Xavier Maigre, vous nous faites revivre justement un peu de votre adolescence avec One of Us, hit de la chanteuse américaine Joan Osborne, sorti en 1995.
Bah oui, j'ai une tendresse particulière pour cette chanson qui a été écrite par le musicien américain Eric Bazilian pour Joan Osborne. Jeune collégien, c'est l'une des premières ritournelles que j'ai apprises à la guitare, avec plus ou moins de virtuosité, hein, je vais être honnête avec vous. Mais en tout cas, on n'oublie pas ces choses-là. One of Us, c'est une ballade rock dans la plus pure tradition. Quelque part entre Neil Young, Creedence Clearwater Revival ou les Eagles, entre autres légendes. Joan Osborne a cette voix pleine d'âme, légèrement éraillée, de celle qu'on n'oublie pas, de celle qui scande une époque pour longtemps. Pour moi, c'est l'une des grandes chanteuses des années 90, aux côtés d'Alanis Morissette, de Dolores O'Riordan des Cranberries ou de Courtney Love, veuve de Kurt Cobain. Même si Joan Osborne a été un peu oubliée depuis, hélas. Dans la chanson que vous allez entendre, ce qui me marque le plus, c'est le message sous-jacent qu'on y entend. Et si Dieu était l'un de nous? Juste un pauvre type comme l'un de nous, juste un inconnu dans le bus, essayant de rentrer chez lui.
Alors, en quoi précisément ce titre nourrit-il un questionnement spirituel dans cette période de l'Avent?
Mais parce qu'il nous parle d'un Dieu qui se glisse dans la peau des hommes. One of us, l'un des nôtres. Qu'y a-t-il de plus chrétien? Le Dieu dépeint dans la chanson me fait penser à la figure du fol en Christ, cher à la tradition spirituelle occidentale. Vous savez, cet anonyme qui abandonne tout pour se rapprocher de Dieu en vivant la pauvreté, façon Saint Benoît Labre au XVIIIe siècle. Dans la tradition orthodoxe russe, il y a aussi la figure du Yurodivi, menant une vie errante, sans attache, sans toit. On croise de ces fous chez Tolstoï ou chez Dostoïevski. Cela m'évoque aussi les récits d'un pèlerin russe, un ouvrage anonyme du XIXe siècle qui a nourri ma passion pour les pèlerinages. C'est tout cela qui pulse dans la chanson de Joan Osborne. Elle nous dépeint un clochard céleste à la Jack Kerouac, mais à la sauce mystique. Et j'aime cette idée que le marginal est peut-être un saint, peut-être Dieu lui-même. Cette chanson me fait aussi penser aux Ailes du désir, le film de Wim Wenders. Cet effleurement entre le visible et l'invisible. Ce moment où le voile se déchire pour laisser passer, laisser apparaître quelque chose ou quelqu'un de plus grand que nous. C'est aussi l'ange du livre de Tobie, protecteur du voyageur. C'est enfin et surtout le Christ qui disparaît aux yeux des pèlerins d'Emmaüs, à l'instant où ceux-ci le reconnaissent, le cœur brûlant. Le Christ qui, de son vivant, a été si souvent rejeté.
Alors, vous choisissez bien vos rapprochements. Kerouac, Les Ailes du désir, c'est un peu cadeau pour moi. Et ce récit d'Emmaüs, qui est, à mes yeux, une vraie perle des évangiles. Enfin, le Christ rejeté, justement, vous ne croyez pas si bien dire, car il me semble avoir entendu qu'en 1996, cette chanson a hélas suscité une vraie controverse. Racontez-nous.
Oui, à l'époque, aux États-Unis, le président de la Catholic League a vertement critiqué la chanson, rappelant que même les admirateurs de la chanteuse voient quelque chose de sacrilège dans son travail. Une référence à un article élogieux qui soulignait justement cette dualité dans la chanson de Joan Osborne. À mes yeux, enfin surtout à mes oreilles, c'est précisément cela qui fait sa force. En cette période de l'Avent, Joan Osborne nous dit quelque chose de beau, de simple sur l'incarnation. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu n'est pas seulement dans les églises, dans les temples, dans les livres saints. Il est partout où nous sommes, il est partout où nos regards s'ouvrent à l'inattendu. Partout où la grâce affleure dans le bourbier des hommes. Les rockeurs et les rockeuses, en l'occurrence, rappellent parfois des évidences que nous avons tendance à oublier.
Eh bien, merci mille fois, François-Xavier, de rappeler cette chose à la fois simple, mais si importante. One of Us, l'un d'entre nous, une chanson interprétée par Joan Osborne. Merci encore François-Xavier pour cette lumière musicale du jour. Nous poursuivons maintenant avec Gaëlle Couvez, coordinatrice du service régional jeunesse de l'Église protestante unie en région parisienne, pour entendre comment, dans sa vie, son ministère et ses multiples engagements, une lueur d'espérance peut réellement changer une vie. Bonjour Gaëlle Couvez.
Bonjour Jean-Luc, merci pour l'invitation.
Vous êtes devenue l'une des figures des engagements jeunesse dans l'Église protestante unie par votre travail. Alors, petit retour sur votre parcours, assistante maternelle de formation, engagée dans votre paroisse, animatrice, coordinatrice du service régional jeunesse dans la région parisienne, mais également étudiante en théologie et bientôt prédicatrice laïque. Ce parcours, Gaëlle, frappe par une forme de cohérence, celui d'une vie au service des jeunes, de l'accueil et de l'Église, mais aussi par une forme de fidélité tranquille. En tout cas, c'est mon point de vue sur ce parcours, mais quel est le vôtre ?
C'est amusant de le voir comme ça. Effectivement, maintenant que j'avance dans l'âge ou dans le temps, je ne sais pas, je vois aussi cette cohérence que je ne voyais absolument pas du tout au départ. Parce que tout m'est tombé dessus un peu par hasard. C'est pas du hasard, bien sûr, mais par des appels successifs.
Et c'est vrai que c'est souvent comme ça dans la vie. On vit les choses telles qu'elles se présentent. Et puis, quand on prend un peu de recul, un peu de hauteur, finalement, on peut se rendre compte d'une certaine cohérence des choses, comment elles se matérialisent.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce que vraiment, mon engagement, en tout cas dans l'Église et pour l'enfance et la jeunesse, a vraiment démarré par inadvertance. et petit à petit, on a apporté des pierres à l'édifice, et avec le recul, effectivement, je me dis qu'il y a une logique dans tout ça. Et c'est pas ma logique, en fait, c'était pas du tout ce que je recherchais au début, mais c'est la logique de Dieu, je crois. Quelque chose de l'appel, vraiment de l'appel.
Quelque chose qui vient d'ailleurs et qui nous rejoint et qui se construit petit à petit. Vous êtes issu d'une longue lignée réformée.
Oui, 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 je pense que, je sais pas, on doit pouvoir remonter jusqu'à la réforme, peut-être, dans ma famille. Donc, née de parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Je suis née chez les diaconesses, oui. Comme ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, bref. Donc, on m'emmenait au temple quand j'étais haute comme trois pommes. Mes grands-parents m'emmenaient au temple. Ils chantaient dans les chorales du temple. Mon grand-père était prédicateur laïque. Enfin, il y avait quelque chose d'évident, en fait, c'est de la tradition familiale.
Ben justement, cette tradition, comment elle a façonné votre foi et votre manière d'être en Église ?
Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être de famille protestante de longue date qui fait que j'ai la foi. Sans doute pas, puisque je suis plutôt presque une des seules maintenant, dans cette génération-là, à suivre. À suivre la voie de Dieu, disons. Mais par contre, d'aussi loin que je peux me projeter, j'ai toujours été croyante.
Ouais.
J'ai toujours eu la foi.
C'est quelque chose qui vous a constamment accompagnée.
Mon enfance est dans la foi. Bien sûr, après, j'ai suivi le catéchisme, etc. Et puis après le catéchisme, comme à peu près tout le monde, je pense... Pouf, il se passe plus rien parce qu'on nous propose plus rien. On en reparlera sans doute. Et j'y suis retournée quand j'ai eu des enfants.
Ouais.
Ça m'a semblé logique d'amener mes enfants au temple et qu'ils suivent une éducation religieuse, comme on peut dire. C'était normal pour moi. Et c'est là
qu'à nouveau,
je suis vraiment rentrée dans l'engagement.
Ouais. Alors justement, comment et à quel moment avez-vous senti que la jeunesse, la transmission, allait devenir un axe central dans votre engagement ? C'est à cet instant-là, avec transmission à vos enfants ou plus tard ?
La transmission à mes enfants, c'était très important, oui. Et d'ailleurs, ils l'ont pris comme ça. Parce qu'ils peuvent en parler en disant « tu nous as un peu forcé la main, mais maintenant, merci ». Non pas qu'il se soit fait baptiser d'ailleurs, hein, mais juste d'avoir ces valeurs,
repères.
Ces valeurs-là. Voilà. Et moi, non, ça encore c'est vraiment du hasard, puisque c'est, comme je le raconte parfois, c'est en allant rechercher ma fille à l'école biblique, donc c'est les 7-11 ans, l'école biblique, que l'animateur de cette époque, dans notre paroisse, a fait un appel comme ça, a lancé un appel en disant « l'année prochaine, je serai tout seul. Est-ce que quelqu'un veut venir m'aider ?» Et moi, j'ai dit « oui ».
Présente.
Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Ouais. Et là, ça a démarré. J'ai mis le doigt dans un engrenage. Et maintenant, tout me semble logique. Ouais. Tout me semble évident. Oui, la jeunesse, c'est au cœur de ma vie et ça devrait être au cœur de l'Église.
Alors vous êtes investi dans la jeunesse, mais aussi dans la cité, conseillers syndicaux, parents d'élèves, conseils citoyens. Qu'est-ce qui pour vous relie ces engagements au fait d'être chrétienne ?
C'est le service aux autres, le service tout court. C'est de se rendre utile partout où l'on peut. Et puis quelque part, je me dis que le monde laïque, si on peut parler comme ça, peut être vraiment dur, loin des valeurs. Et nous, on doit porter une sorte de témoignage. C'est pas une sorte, on doit porter le témoignage du Christ. Et s'engager dans la cité, c'est aussi, par sa façon d'être, par sa façon d'aborder les choses, c'est aussi une façon... d'apporter le Christ dans le monde.
D'être témoin, une présence...
Oui, d'être une présence
au monde,
active.
Vous êtes coordinatrice du service régional jeunesse en région parisienne. Quel est votre rôle exactement ?
Alors, le SRJ Panamenco pour les intimes. Donc, le SRJ, mon rôle, en fait, donc coordinatrice, on m'appelle souvent responsable. Je n'aime pas du tout cette formule. Donc, coordinatrice, c'est-à-dire qu'on est une équipe de 13... et tous bénévoles, de laïcs et de pasteurs. Et c'est comme on est tous bénévoles, on a tous des occupations à droite et à gauche, la vie, hein, comme pour tout le monde. Et donc moi, j'essaye de faire en sorte de dispatcher les rôles sans que ce soit un poids pour les uns ou pour les autres. Qu'on continue, qu'on puisse faire les choses dans la joie, toujours, dans la bonne humeur, sans se sentir un fardeau de plus sur les épaules.
Asphyxié par quelque chose qui s'impose.
Oui, parce qu'on est toujours très asphyxié dans nos vies de tous les jours. On court dans tous les sens et ça, bon, que ce soit les pasteurs, quand je vois nos pauvres pasteurs qui sont
très débordés,
mais vraiment débordés, c'est un sacré ministère. Et les laïcs qui ont leur vie de famille, leur vie professionnelle et qui s'engagent en plus dans l'Église, c'est tellement formidable, je trouve, que moi j'essaye d'alléger le fardeau, donc d'être un peu partout, et de dispatcher, oui c'est ça.
Alors pour éclairer cette mission auprès de la jeunesse, vous avez choisi deux versets bibliques de l'Évangile selon Matthieu, qui vous inspirent profondément. Et c'est pour notre rendez-vous avec la parole, deux paroles prononcées par Jésus, le premier au chapitre 19, le verset 14, et ensuite au chapitre précédent, le 18, le verset 20, et nous écoutons Mick qui nous les livre.
Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Laissez venir à moi les enfants, c'est un verset que l'on croit connaître, mais qui, lorsque l'on travaille un peu plus avec les jeunes sur le terrain, prend sans doute une tonalité particulière. Vous, Gaëlle Couvèze, qu'est-ce qui vous touche personnellement dans ce premier verset ?
Alors pour tout vous dire, bien sûr on le connaît ce verset, mais il a vraiment pris toute son ampleur en moi quand j'ai démarré l'école biblique justement. Donc je me suis occupée dans la paroisse de Saint-Quentin des 7-11 ans et cela faisait partie du programme d'étudier ce petit bout de texte avec les enfants. Et là ça m'a paru évident de le travailler, entre guillemets, je mets des guillemets, avec les enfants. La scène, c'est comme si la scène m'était revenue, où, je ne sais pas, j'imagine maintenant très bien ce Jésus, avec la foule tout autour, qui est un homme public, là, à ce moment-là, et quelques personnes qui leur amènent des enfants. Et à l'époque, les enfants, ça comptait pas. Bon, je ne sais pas si ça compte plus maintenant, mais à ce moment-là, ça comptait vraiment pas. Ils veulent que Jésus prie pour eux, qu'on leur donne de l'intérêt, ses parents. Et les disciples repoussent un peu comme si c'était allez, les moineaux. Ouais. Et Jésus s'oppose à ça. Jésus fait un geste. Et c'est magnifique, en fait, quand on y pense, qu'il ait pris le temps, qu'il ait donné de l'importance à ses enfants. Comme quelque chose qui est d'avenir.
Ouais, oui. Voilà. Et il s'intéresse.
Oui, cette simplicité, cette pureté, cette confiance vraiment toute simple de l'enfant, Jésus, il voit comme la clé du royaume, la façon de s'approcher de Dieu. Et moi, ça m'émeut particulièrement.
Quelle place, selon vous, devrait-on offrir aux enfants dans l'Église ?
Cette place, justement. Cette place, parce que finalement, l'Église est un monde d'adultes. Un monde d'adultes qui a l'impression, parfois, de tout connaître de Dieu. Parce qu'on est plus âgé, et alors je me mets dedans, parce qu'on est plus âgé, on a l'impression que nous, on a fait notre chemin de foi et qu'on sait tout sur Dieu. Parfois, il faudrait qu'on gomme tout ça, qu'on revienne au point de départ et qu'on se mette dans la peau d'un enfant qui est le cœur ouvert, prêt à la découverte. Mmh. Et c'est ça, la vraie foi, en fait. C'est de se toujours être en attente, toujours vouloir s'abreuver de quelque chose, comme un enfant. Parce que quand on a un groupe d'enfants devant soi, on voit leurs yeux, là, écarquillés, ils sont tout ouïs. Et parfois, les adultes, on oublie ça.
Oui, oui, cette simplicité.
Beaucoup trop souvent. On intellectualise tout. Dans nos cultes, on est très sérieux. On veut même des fois pas des enfants. parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils bougent.
Ils peuvent être dérangeants.
Ils peuvent être dérangeants, je le conçois.
C'est comme ça qu'on réagit souvent.
Oui, exactement. Et pourtant, je pense que leur place est sur les bancs du culte, même s'ils remuent. Parce que c'est cette naïveté aussi qui fait la beauté du cœur, la pureté du cœur et l'ouverture.
Est-ce que vous avez déjà vécu une situation qui vous revient en mémoire, là où un enfant ou un jeune a d'une certaine manière révélé quelque chose de l'Évangile à la communauté ?
Oui, alors oui, souvent. Je vais citer un exemple particulier. Tous les ans, on emmène, l'Église protestante région parisienne emmène les jeunes à Thésée. Une semaine, la communauté œcuménique des frères de Thésée. Et c'est à chaque fois un énorme bouleversement. Il m'est arrivé d'emmener une jeune fille qui ne savait pas trop pourquoi elle y allait, un peu forcée par papa et maman, et qui a eu une véritable révélation de foi. L'Esprit-Saint lui est tombé dessus à Thésée. Et quand elle est revenue, elle a demandé le baptême. Et maintenant, elle fait le catéchisme dans notre paroisse. Et ça, enfin, c'est la révélation. Ça, c'est...
Mais c'est bouleversant d'une certaine façon.
C'est complètement bouleversant. À chaque fois, ça m'émeut profondément de voir à quel point ils peuvent se laisser toucher par Dieu.
Le deuxième verset nous entraîne un peu ailleurs, en complément. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Certaines églises locales connaissent parfois une grande fatigue face justement, notamment au manque d'enfants, de jeunes. Ce verset, vous le proposez peut-être un peu comme une réponse, il me semble. Pourquoi vous semble-t-il si précieux, si important pour nos églises aujourd'hui ?
Oui, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend en permanence. Quand je vais dans les paroisses ou quand je rencontre pasteurs et animateurs. Oui, mais nous, on n'a pas de jeunes. Mais ils sont où, les jeunes ? Pourquoi ils ne viennent pas au culte, les jeunes ? Bon, il y a plein de raisons pour ça. Mais j'ai justement envie de dire, c'est pas le nombre qui compte. Même si vous n'en avez qu'un, envoyez-les dans les rassemblements, par exemple, de jeunes qu'on organise avec le SRJ, envoyez-les à Thésée, venez, laissez-vous entraîner dans toute cette dynamique jeunesse régionale, parce qu'ils vont être profondément transformés d'en retrouver d'autres. Et ils ne sont pas nombreux au départ, mais ils le deviennent petit à petit. Chaque année, ça augmente, et chaque année, il y en a de plus en plus qui reviennent dans leur paroisse avec une foi remuer.
Renouveler.
Et renouveler. Ouais. Tout à fait.
Pour les jeunes de nos églises, quelles paroles auriez-vous envie de leur adresser aujourd'hui ?
D'abord, que Dieu, c'est la joie.
Ouais.
C'est la joie dans un monde qui est morose, qui peut paraître extrêmement troublé, et qu'il est trouble, parce que la jeunesse ne va pas forcément bien. Donc, Dieu apporte la lumière, la joie, et être dans les pas du Christ, c'est entrer dans un autre univers. Et c'est un univers qui renforce et qui permet d'aborder ce monde et d'apporter une vision différente.
Eh bien, merci Gaëlle, le temps passe vite. Merci pour cette parole qui nous rappelle que l'Évangile ne compte pas, il accueille, il ne mesure pas, il ouvre, et qu'une église vivante, c'est souvent celle où l'enfant a trouvé aussi sa place, et où deux ou trois ont osé croire que cela suffisait. Au revoir, et très bon avant à vous Gaëlle.
Merci.
Alors aujourd'hui dans Soleil, j'aimerais aussi vous parler rapidement d'un film qui interroge la manière dont on se construit quand on a dû un jour s'inventer un autre nom pour survivre. Film où la quête d'identité devient aussi une quête de vérité, car il peut arriver un moment dans toute vie humaine où l'on doit revenir vers ce que l'on fuit, non pour y rester, mais pour comprendre d'où l'on vient. C'est Louise, premier film de Nicolas Ketel, en salle mercredi prochain, qui raconte ce passage fragile entre la blessure et la parole, entre le secret et le dévoilement. Un film qui nous rappelle que retrouver la lumière demande parfois d'oser franchir à nouveau la porte que l'on croyait définitivement fermée.
tellement de choses que je comprends mieux là d'un coup. Quoi, tu veux pas t'attacher aux gens?
Non mais mon roulier est tout mouillé, merci Jeanne.
Pourquoi tu gardes aussi bien les secrets? T'as fait ça toute ta vie.
C'est toi qui chantais là tout à l'heure. C'était vachement bien. C'est gentil, même. Merci. Je pourrais peut-être écrire un article sur toi si ça te dit.
Louise, enchantée. Moi c'est Jeanne donc. Maman, c'est Louise. Louise, ma mère.
Catherine. Enchantée.
Enchantée.
Tu vas leur dire qui t'es ?
Je suis qui, en fait ? Je sais rien sur moi.
Mon autre fille, la grande sœur de Jeanne, elle est partie de la maison quand Jeanne était encore petite et...
C'est la dernière fois que je l'ai vue.
Il faut pas qu'il te trouve, ma princesse. Tu pourras avoir des gros problèmes. Qu'est-ce que t'as fait ?
Tu penses à elle, parfois ? Elle te manque pas ? Vous pensez que c'est quoi qu'elle aurait mal interprété ?
Soit tu leur dis, et vite. Soit tu les oublies. Pour de bon.
Vous vous êtes pas dit qu'elle pourrait revenir un jour, votre fille ? Vous êtes sûr ?
Le film suit une femme qui avance à pas fragiles, déchirée entre la protection que lui offre son mensonge et le vertige de dire la vérité. Cette quête ressemble à une parabole. On ne guérit pas d'un passé qu'on enterre. On guérit quand on ose aussi le regarder, même tremblant, même tard. Il y a dans ces retrouvailles manquées, ces silences trop lourds, une forme de chemin spirituel, celui du pardon difficile, celui de la parole retenue, celui de la possibilité d'une seconde naissance. Et Nicolas Ketel filme cela remarquablement bien. Chaque visage devient lieu de passage, chaque regard une main tendue, et Diane Rouxel, dans le rôle principal d'une intensité saisissante, porte tout le film comme on porte un secret, avec la peur qu'il éclate et le désir qu'il libère. Un film qui dit que repartir de zéro n'est jamais simple, mais que parfois c'est le seul chemin vers la lumière. Louise est donc en salle ce mercredi 10 décembre. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et Bruno Mourlan à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2 à 10h dans Présence protestante, votre magazine Ma foi, avec en pleine nature Christian, producteur de sapins de Noël, et en plateau Eliane Drugeot, psychopraticienne, pour parler du thème de la révélation. La semaine prochaine dans Soleil, François-Xavier Maigre pour la chronique musicale et la pasteur Valérie Mitrani. Mais dans quelques instants, sur France Culture, vous retrouvez Talmudique, présenté par Marc-Alain Wacknin, juste après vos informations de 9h. Et je vous souhaite un bon deuxième dimanche de l'Avent à chacune et chacun.